RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Voilà. Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Didier Giraud, l'éleveur de bovins. Salut Didier.
Salut Olivier, bonjour à la France profonde.
Et la plus belle, Joëlle Dagosséry, la coach de vie. Bonjour Joëlle.
Bonjour à tous.
Enfin, ça éclate au moins.
Je ne sais pas si vous êtes heureux, moi je suis heureux ce matin.
Ah oui, bah,
vous savez pourquoi? Parce que hier on a vécu une soirée formidable, nous les supporters parisiens. Enfin, la chance est de notre côté et nous sommes qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Écoutez ce qui s'est passé hier sur RMC.
Ça revient les pieds de Mbappé, oui, et cette fois-ci, c'est la bonne, c'est la bonne. 4 buts à 1, yes. Doublé de Mbappé. C'est pas la remontada, c'est la démontada pour Paris Saint-Germain.
Alors, il faut arrêter de dire d'ailleurs remontada parce que c'est un mot espagnol. Non, c'est la remontée. Et donc c'est la vengeance. Oubliez ce qui s'est passé en 2017. Ça y est, le Paris Saint-Germain est en demi-finale. Quatrième demi-finale pour Paris en Ligue des Champions. En espérant aller encore plus loin. Dortmund, c'est le prochain adversaire. Les Allemands, on les connaît bien puisque on n'a pas d'ailleurs réussi à les battre lors de la phase de qualification. Donc là, il va falloir quand même prendre ça au sérieux. Mais Joël, t'as vu le match?
Non, j'ai pas regardé. Je me disais ils vont encore perdre, ça sert à rien.
Bah voilà.
Et finalement,
très français.
Et puis j'ai suivi vite fait. En fait, j'ai suivi sur internet le score. Je me suis dit tiens, ils vont gagner.
Tiens, pour une fois.
Donc non, j'attends Dortmund. Moi, je vais regarder Dortmund par contre. Et
Donc tu regardes pas Paris, mais tu regardes Dortmund. Et pourquoi cette passion pour Dortmund?
Parce que Sébastien Haier, qui est champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire.
Ah, c'est pour ça.
Donc je vais regarder. Je vais regarder, mais je vais peut-être supporter quand même PSG parce que c'est toujours
gentil,
bien que l'équipe française.
Didier.
Écoute, j'étais en panne d'internet hier. Mais en même temps, comme mon réveil sonnait à 4h, alors j'ai écouté le match au commentaire de sous la douce voix de Jeannot Rezeguet, et je trouve que ça a un certain charme. Alors après, je veux pas te fâcher Olivier, mais si je devais mettre une pièce sur le champion d'Europe, ça serait plutôt sur Toulouse que sur Paris.
Oui, ben on verra. Et Charles, je te demande pas si t'as regardé le match.
L'abonnement Wanadoo de Didier.
Wanadoo.
Wanadoo.
Et ça y est.
Oui, c'est vrai. Mon adresse mail est toujours Wanadoo et la manivelle et la manivelle qui m'amène le réseau.
Il a
cassé.
Il avait branché son câble Ethernet. Il ne marchait pas.
Alors puisqu'on parle sport, il y a moi, je m'en fous du dans la vie.
Ce match de con. Je m'en fiche totalement.
Il n'y a pas que le foot dans la vie, il est JO, parce qu'aujourd'hui c'est J-100, c'est un jour important pour RMC. Nous sommes la radio partenaire des Jeux Olympiques Paris 2024. On est à J-100. Tout à l'heure, David Douillet, double champion olympique, sera face au GG à 9h40. Est-ce que ça y est, l'enthousiasme est là? Est-ce qu'on va enfin arrêter de dénigrer l'organisation et se ranger derrière la France, derrière nos champions en attendant des médailles? On en parlera avec David. Mais n'oublie pas aussi que toute la semaine, on vous fait gagner des places pour ces JO. Et aujourd'hui, comme c'est J-100, à 9h24, 10h24 et 11h24, donc à la 24e minute de chaque heure, nous allons appeler l'un d'entre vous pour vous offrir deux places pour assister soit à la cérémonie d'ouverture, soit à la finale du 100 mètres, soit au judo, soit au tennis de table, soit au final hand homme-femme, soit à la natation et bien plus encore. Et c'est vous qui aurez le choix. Alors pour gagner, enfin espérer gagner à 9h24, hein, donc dans moins de 20 minutes maintenant, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16, Paris 2024 au 7-32-16, 100 places. Un gagnant par heure, c'est la promesse RMC pour ce J-100. Allez, c'est parti, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on a retenu ce matin? Bah tiens, cette proposition d'un député Renaissance, qui sera avec nous dans un instant, David Amiel, il veut réserver les nouveaux logements sociaux aux fonctionnaires.
RMC, les grandes gueules.
Et visiblement, cette proposition plaît à certains. Écoutez ce qu'en dit notamment Christian Grolier, le secrétaire général Force Ouvrière Fonction Publique.
Les loyers ont augmenté énormément dans les grandes villes. Vu le salaire des fonctionnaires aujourd'hui, évidemment, tout le monde est obligé de s'éloigner pour pouvoir avoir un logement à peu près décent. Les trajets se sont bien sûr accentués. Faire en sorte que les fonctionnaires habitent plus près de leur lieu de travail, ce sera une bonne nouvelle. Il faut faire en sorte que tous les agents, quelle que soit leur mission, tous ceux qui ont besoin aujourd'hui d'être logés, parce qu'on a des fonctionnaires qui vivent dans leur voiture, puissent bénéficier de logements sociaux.
Alors, c'est donc la proposition du député Renaissance David Amiel qui remet un rapport au gouvernement sur les conditions de logement des travailleurs du service public. C'est vrai que parfois dans les grandes villes, c'est très compliqué de trouver un logement près de son lieu de travail. Et donc, il voudrait que ces travailleurs de première ligne dans la fonction publique soient privilégiés, qu'il y ait un avantage pour les policiers, les infirmiers, les profs, les surveillants pénitentiaires. Il s'agirait de logements de fonction alors d'un type nouveau, c'est-à-dire en cas de changement de profession. Si le policier décide de quitter la police, eh bien, il devra rendre son logement. Faut-il réserver les nouveaux logements sociaux aux fonctionnaires? Je vous pose la question 32-16. Dans un instant, je donne la parole à David, mais je voudrais que, Joël, toi qui as travaillé dans le logement social, dans une autre vie, oui. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée?
Moi, je regrette que, en fait, la question du logement soit prise par juste ce petit bout, en fait, puisque c'est un gros problème. Et je trouve que la proposition est, même si elle est pragmatique, c'est vrai que les fonctionnaires ont du mal à se loger. Je la trouve un peu populiste, quelque part, parce que dès que j'entends nos fonctionnaires, nos policiers, nos infirmières, je me dis, oula, ça va être populiste. Donc, comment ça se passe le financement des logements sociaux? Donc, il y a une part qui est financée par l'État, la Caisse des dépôts de consignation, Action Logement. Et donc, l'État a très peu de financement dans le logement social, ce qui fait qu'il a très peu de logements aussi. Donc, quelque part, quand j'entends ça, je me dis, est-ce qu'on va modifier le financement des logements sociaux? Est-ce que, du coup, les fonctionnaires pourront avoir plus de logements parce que l'État va mettre plus d'argent? Et quand on regarde, moi, en tout cas, quand j'y travaillais, l'État se désengageait de plus en plus du financement des logements sociaux. Donc, honnêtement, cette proposition, c'est pas qu'elle est mauvaise. Bien sûr que les fonctionnaires doivent avoir accès aux logements sociaux.
Oui, mais pourquoi plus des fonctionnaires que
Mais justement, c'est juste que c'est pas réaliste.
C'est pas du tout réaliste. Très vite avant d'accueillir le député.
Moi, je pense que le plus compliqué dans les logements sociaux, comme il y en a pas assez, c'est trier qui y a accès, qui n'y a pas accès. Et vous avez fait un débat la semaine dernière, entre autres, sur des gens qui restent en place dans les logements sociaux malgré que leur situation à la fois familiale et de moyens change. Je pense que le travail, il est d'abord là, quoi. Considérons
qu'il en manque. Jean-Bernard Bardella, par exemple, ce matin, disait, effectivement, s'il n'y a pas assez de logements, priorité aux Français.
Non,
il y a trop d'étrangers dans les logements
après,
sociaux.
Après, quelle que soit la règle, est-ce que c'est les gens qui travaillent sur la première ligne en tant que fonctionnaires? Parce que je vois pas en quoi celui qui travaille sur la première ligne en tant que fonctionnaire ou dans le privé, c'est quoi l'écart? Quand t'as un petit salaire, t'as droit aux logements sociaux. Le problème qu'il y a, c'est qu'il en manque. Donc après, qu'il y ait un débat sur les règles de priorité et comment ceux qui ont plus de droits légaux...
T'es d'accord avec cette priorité pour les fonctionnaires ou pas?
Ben, pas complètement.
Non,
moi, je vois pas pourquoi. C'est les salaires qui doivent trier ces priorités-là.
Charles? Moi, je pense que la France est un pays qui se soviétise.
Ben oui.
Et qu'en fait, on veut loger la fonction publique comme on le faisait en Europe de l'Est pendant l'Union soviétique. Et que ce pays est incapable de raisonner autrement que comme ça. Donc, on crée des nouveaux postes de fonctionnaires. Emmanuel Macron, loin d'avoir fait reculer, je l'ai noté, loin d'avoir fait reculer le nombre de fonctionnaires en France, a créé des postes de fonctionnaires. Je vais retrouver le chiffre dans un instant. 178 000 fonctionnaires créés entre l'accession d'Emmanuel Macron à l'Élysée et fin 2022.
Alors qu'il avait promis l'inverse.
Donc, ce qui fait que nous avons aujourd'hui en France 5,7 millions de fonctionnaires. Je ne sais pas si vous imaginez. Plus tous ceux qui vivent aussi.
Un quart des salariés, oui.
Plus tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui vivent quand même d'argent public. Croyez-moi que ça fait quand même énormément de monde, à mon sens, beaucoup trop. Et dans ce système fou, eh bien, j'imagine d'ailleurs que ces gens qui sont habitués à des logements de fonction, je ne parle pas forcément du jeune David Amiel en particulier, même si j'ai regardé son CV, il n'a pas travaillé longtemps dans le privé. J'ai vu moins d'un an à la poste.
Bah, il va nous l'expliquer dans un instant,
mais je sais que les logements de fonction sont courants aux postes divers et variés de la République. Moi, je suis pour le chemin inverse. Je suis pour la suppression des logements de fonction. Savez-vous, par exemple, que le gouverneur de la Banque de France, en plus de gagner à peu près, je crois, 300 000 euros par an, dispose d'une indemnité de 70 000 euros par an pour se loger. Mmh. Parce que vous comprenez, avec 300 000 euros par an, on ne peut pas se loger à Paris, c'est compliqué. Donc moi, je suis pour la suppression des logements de fonction et la sortie de cette logique soviétique. Je pense que la France doit retrouver, au contraire, de la liberté. Par ailleurs,
c'est pas,
je pense,
c'est pas à l'État de loger ses fonctionnaires.
Je pense que ça n'est pas parce qu'on travaille pour l'État qu'on doit être débranché de toutes les contingences qu'affrontent les gens qui sont dans le privé.
Alors, David Amiel est avec nous comme promis. C'est le député Renaissance qui fait cette proposition. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les grandes gueules. Bon, il va falloir convaincre les grandes gueules qui sont assez sceptiques.
Oui, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait exactes dans ce qui a été dit. D'abord, il faut bien avoir en tête que le public a aujourd'hui moins d'instruments pour loger ses agents que le privé n'en a pour loger ses salariés.
Oui.
Parce que dans le privé, vous avez une structure qui a été construite progressivement qui s'appelle Action Logement, qui fait exactement ça, c'est-à-dire qui investit dans le logement social sous différentes manières pour avoir des logements qui sont ensuite fléchés vers les salariés du secteur privé. Aujourd'hui, dans le public, vous n'avez pas ça. Et au contraire, vous avez des employeurs publics qui, depuis plusieurs décennies, se sont désengagés de leur responsabilité d'employeur, c'est-à-dire d'aider leurs agents à se loger. Et aujourd'hui, on a une situation qui est devenue insoutenable. On a des agents publics qui ne parviennent plus à se loger, qui font des heures de trajet, qui sacrifient leur vie de famille et qui parfois quittent le service public. Et
oui, parce que le prix des logements, le prix des loyers a explosé dans les grandes villes, c'est pour ça.
Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Il y a une crise générale qui est que le logement est devenu inabordable pour beaucoup de travailleurs des classes moyennes et populaires dans les grandes villes, dans les zones frontalières, je pense à la Haute-Savoie, dans les zones littorales, touristiques. Et vous avez une crise spécifique qui est que le secteur public a moins d'instruments pour aider ses agents que le privé.
Pardon, mais député, mais je ne sais pas d'où ça sort. Donc ça veut dire que, votre majorité, non seulement, donc vous passez les fonctionnaires à 4 jours par semaine. Des fonctionnaires dont certains dans beaucoup d'administrations ne font même pas leurs 35 heures.
Et en plus de ça, ce sont des gens
qui vont être logés maintenant aux frais de la princesse. C'est-à-dire de vous dire que vous êtes en train de créer un fonctionnariat comme il y en avait dans l'Union soviétique.
Pardon, Charles de Consigny, mais tout ce que vous venez de dire est inexact. D'abord, sur la semaine de 4 jours qui est expérimentée, ça ne sera évidemment pas dans toute la fonction publique et ça ne remet pas en cause la durée.
Ce sera seulement pour quelques privilégiés.
Non, mais la seule question, c'est de savoir, est-ce que vous faites 35 heures sur 5 jours,
ça, vous
ou
le
35
savez très
heures
bien.
Sur 4 jours, pas du tout. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui le proposent, c'est simplement de donner à la fonction publique la capacité de le faire aussi, certainement pas de travailler moins, au contraire. On s'est battu
vous
pour
savez
que,
très bien qu'à partir du moment où ils seront à 4 jours par semaine, ils travailleront moins.
Notamment dans les collectivités territoriales, la règle des 35 heures n'était pas respectée. C'est le cas, par exemple, à la mairie de Paris, où beaucoup d'agents travaillent moins que 35 heures. On les contraint, au contraire, à passer à 35 heures. Donc, ce n'est pas du tout notre approche.
Et
la question de l'hôpital, si on veut aujourd'hui avoir une réponse un peu pérenne à la question hospitalière, il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que tant d'agents quitte le service public hospitalier.
David Amiel, parce que moi j'ai un exemple très concret. Je vois que les femmes, parce que c'est essentiellement des femmes qui travaillent dans les crèches, n'arrivent pas à se loger, par exemple à Paris. Donc elles font 2 heures de transport en commun par jour pour venir garder les enfants des petits Parisiens dans les crèches municipales parisiennes. Et d'ailleurs, on a du mal à recruter parce qu'effectivement, au bout d'un moment, elles font les calculs, elles se disent « est-ce que ça vaut le coup encore d'aller travailler ?» parce qu'elles sont pas très bien payées. « Tant pis, je travaille pas et mon mari travaillera. » Voilà. C'est ça les arbitrages. Et j'apprends quand même que la mairie de Paris, qui a des logements sociaux, ne donne pas ses logements en priorité à ces femmes parce qu'elles sont pas parisiennes, elles viennent de banlieue. Donc moi je me méfie toujours de ces règles parce que est-ce que c'est normal qu'un policier municipal parisien soit prioritaire sur cette femme qui fait 2 heures de transport en commun par jour
et qui gagne pas plus que lui,
qui gagne pas plus et qui gagne moins sans doute,
c'est ça le problème,
et qui va pourtant travailler à Paris garder les enfants des petits parisiens.
Non, mais c'est pour ça que ce qui est très important dans la proposition que je fais, c'est qu'il s'agit de produire des logements supplémentaires. Parce qu'effectivement, c'est exactement ce que je propose. C'est de pouvoir créer des logements supplémentaires, y compris des logements de fonction de type nouveau où des loyers seront payés. Hein, puisque dans le logement social, dans le logement intermédiaire, vous payez évidemment des loyers quand vous les avez. Il ne s'agit pas de remettre de l'ordre dans une file d'attente qui, dans tous les cas, est trop longue. Le problème, c'est que la file d'attente est trop longue. Et donc, je propose, parmi les nombreux éléments que le gouvernement est en train de travailler pour avoir ce choc d'offres, c'est-à-dire cette construction supplémentaire de logements, d'avoir ce type nouveau de logement, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des logements sociaux qui sont aussi attachés à une fonction. Parce que vous êtes infirmière, vous pouvez y avoir accès, mais le jour où vous quittez cet emploi, eh bien, vous le donnez à une autre
infirmière. Mais c'est des logements de fonction.
Ce sont des logements de fonction. Vous généralisez.
À la campagne, il y a des gendarmeries, et dans les gendarmeries, il y a des logements.
Oui, ça existe. Mais
les gendarmes, ils sont logés.
Mais il faut arrêter avec les logements de fonction. Tout le monde n'a pas besoin d'un logement de fonction. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, monsieur Amiel, pourquoi est-ce que vous avez recruté 178 000 fonctionnaires depuis 2017. Ça m'intéresse.
Il y a évidemment beaucoup de questions différentes, monsieur Contini, vous le savez très bien. D'abord, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont recrutés dans les collectivités territoriales. Ça, c'est pas à la main du gouvernement. C'est pas de la majorité présidentielle. Non, mais c'est important de le rappeler quand même. Et puis, par ailleurs, moi je l'ai dit, la question n'est pas celle du nombre de fonctionnaires. C'est surtout de savoir quels fonctionnaires. Parce que oui, on a besoin de recruter dans l'hôpital, on a besoin de recruter dans l'éducation, on a besoin de recruter dans les services de sécurité. En revanche, on a effectivement besoin de faire des économies dans les fonctions support, dans les fonctions administratives. Vous avez cité un certain nombre de choses. Et c'est comme ça, je crois, qu'on aura un service public de qualité, pas en ayant des chiffres qui font l'amalgame entre des situations très différentes.
Merci, monsieur Amiel, pour ces explications. On va continuer, bien sûr, d'en débattre avec vous au 32-16. Donc, est-ce une bonne idée de réserver ces logements sociaux aux fonctionnaires? Est-ce la solution face à la pénurie de logements, même s'il dit qu'il faut quand même construire plus de logements, et face à la difficulté de trouver des logements bon marché dans les centres-villes? On continue d'en discuter. À tout de suite avec vous sur RMC, RMC Story.
RMC.
9h30.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Autour de la table aujourd'hui, la coach de vie, Joël Dagosséry, Charles Consigny, l'avocat, et Didier Giraud, l'éleveur de bovins. Ah, oulala, alors là, attendez. Ça ne plaisante plus. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait gagner toutes les... à chaque fois, à chaque heure, hein, à 9h24, 10h24, 11h24, des places pour les JO. Ouais, on est à J-100, deux places pour les JO. Et donc on va passer un coup de fil à un auditeur ou une auditrice. On va voir. Allez, c'est parti. Et nous sommes... Allô ?
Allô,
bonjour. Oui,
bonjour.
Bonjour, c'est Olivier Truchot et les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story.
Bonjour les GG.
Vous avez envie de participer aux JO ?
Oh oui.
Bah ça tombe bien parce que je vais vous offrir deux places.
Ah bah c'est super.
Alors deux places parce que vous faites partie des gagnants des 100 places.
Super, ça fait très plaisir.
Mais vous allez choisir soit deux places pour la finale et médaille de bronze de tennis de table. Il y aura peut-être Félix Lebrun ou son frère Alexis Lebrun, nos deux champions, voire les deux. Ça sera le 4 août à l'Arena Paris Sud. Soit deux places pour les demi-finales de basket, avec peut-être aussi l'équipe de France. Ou l'équipe américaine. Et ça sera le 8 août à Paris. Que vous choisissez. Qu'est-ce que vous préférez? Le basket, pardon, ou le tennis de table?
Alors, ça sera le basket, parce que dans les deux cas, que ce soit voir les Américains ou les Français, ça sera super.
Bon, ben ça y est, je vous les envoie, ces deux places. Bravo à vous.
C'est super. Merci beaucoup.
Ça sera le 8 août à Paris. Deux places pour les demi-finales de basketball. Soit avec l'équipe de France, soit avec la team américaine. En tout cas, bravo à vous. Et vous continuez à jouer toute la journée. À 10h24, un nouveau gagnant ou une nouvelle gagnante. Tout cela, vous pour gagner, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. C'est toute la journée et c'est toutes les heures. Allez, on revient à notre discussion autour de cette proposition du député Renaissance David Amiel. Réserver les nouveaux logements sociaux aux fonctionnaires, aux policiers, aux profs, aux surveillants pénitentiaires qui ont du mal à se loger dans les centres-villes car les loyers sont trop chers. Il n'y a pas assez de place. Est-ce que c'est une bonne idée? Yves est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes retraité de la fonction publique, vous auriez pu bénéficier de cet avantage?
Non, comme j'ai dit à vos collègues au standard, moi j'avais la chance d'avoir le travail à 5 minutes de chez moi. Donc j'habite au sud de la Haute-Garonne, à côté de Saint-Gaudens, quoi. Donc j'ai travaillé dans une collectivité territoriale, j'ai commencé un peu au service ordures ménagères. Après, comme je suis cuistot de métier, il y avait des places qui se sont libérées en collectivité, donc comme c'était mon domaine, donc voilà. Donc j'ai 25 ans de fonction publique, territoriale, et avant j'ai travaillé dans le privé en tant que cuisinier et boucher-charcutier aussi. Donc voilà, mais par rapport à ce sujet, je trouve que ça serait très bien pour les gens qui sont en début de carrière, parce que comme vous le savez, en début de carrière, un fonctionnaire territorial catégorisé, donc c'est pas des salaires mirobolants, donc je me mets un peu à la place des gens qui habitent en banlieue parisienne et qui ont 2h30, voire 3h de transport. Donc j'ai pris l'exemple au standard des agents de la propreté de la ville de Paris, qui sont soit rippers, c'est-à-dire le ramassage d'ordures ménagères ou le nettoyage. Ils ont un trajet déjà assez conséquent, des salaires, je vous dis, pas mirobolants au départ, et les horaires de travail décalés. Donc, quand vous êtes à
C'est quoi la
différence avec une caissière?
Une femme de ménage?
Avec une caissière, oui.
Oui, mais pourquoi privilégier les fonctionnaires? Parce que, par exemple, moi, je connais plein de gens, les aides ménagères qui bossent en privé, elles ont exactement les mêmes problèmes, elles seraient discriminées au profit d'un fonctionnaire?
Non, c'est pas la discrimination, mais ça pourrait aider tout le monde. Je dis pas que les fonctionnaires.
La proposition du.
C'est le principe des HLM.
La proposition du député, c'est de dire il faut réserver les nouveaux logements sociaux aux fonctionnaires.
Oui, mais je pense que des fois, certains fonctionnaires, au début de carrière, imaginez, vous passez un concours. Quoi, maintenant, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont embauchés, qui sont contractuels, titularisés. Bon, ça les aide, ça c'est clair. Mais imaginez quelqu'un qui... Voilà, donc après, je vais aussi dans votre sens, où il ne faut pas discriminer une caissière de supermarché, ils ont des salaires moindres. Mais bon, à un moment donné...
Mais est-ce qu'on risque pas, pose la question aux grandes gueules, est-ce qu'on risque pas de créer, une fois de plus, de la jalousie, un privilège pour les fonctionnaires sur le privé, alors que les salariés du privé ne sont pas forcément mieux lotis en matière de logement, de transport et de salaire?
Mais ce que je... on va enlever le pain de la bouche de personnes qui financent la construction de logements sociaux pour les donner à des personnes qui ne financent pas ou très très peu, comme l'a dit le député, la construction de logements sociaux. Ensuite, je rappelle que 70% de la population est éligible au logement social. Ça fait pas un petit peu beaucoup? Enfin, vous trouvez
c'est
pas
ça,
que c'est
problème.
Un petit peu beaucoup que 70% des Français
soient
éligibles au logement social? Donc ça veut dire qu'en fait, on a une société complètement paupérisée. Il faudrait déjà enlever de tout ça. Et il faudrait mieux payer les fonctionnaires qui puissent se loger dans le privé. Il faudrait libéraliser le privé, parce qu'en fait, l'accès au logement privé, c'est une galère. En fait, il faudrait carrément révolutionner le logement. Mais ce qu'on fait, c'est on va construire plus de logements,
on gère la pénurie.
Plus de logements sociaux, plus de fonctionnaires. Là, on va avoir 75% des Français qui vont être éligibles au logement social. Puis on va aller jusqu'où comme ça?
Non, mais c'est ça le problème. Enfin, le député nous a dit on réduira pas la taille de la file pour arriver au logement social. Moi, ce que je crois, c'est plutôt que d'installer des coupes-files, il vaudrait mieux revoir les critères qui donnent le droit d'être dans la file, quoi. Écoutez, qu'aujourd'hui, 70% des gens sont éligibles aux logements sociaux, ça veut dire qu'il y a des gens là-dedans qui pourraient se loger sans les logements sociaux.
Parce que il n'y a pas 70% des Français dans les logements sociaux. Donc, majoritairement, les Français se débrouillent. Il y a des listes d'attente. Le problème, c'est
que ça veut dire que les critères sont trop larges, Olivier.
Non, ça veut dire que les logements sociaux, on devrait les faire tourner plus souvent.
Les gens sont trop pauvres, Didier.
Ça veut dire que si les gens étaient mieux payés, ils n'auraient pas besoin de logement social. C'est ça.
Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre l'offre en face de la demande? Enfin, la demande en face de l'offre. C'est dire aujourd'hui, il y a 100 000 logements sociaux, je prends un chiffre au hasard, il y a 100 000 logements sociaux, faisant en sorte que les critères, ils donnent accès à 100 000 personnes.
Parce que c'est tout bête. Il se passe en France, à une échelle peut-être un peu plus faible, ce qui s'est passé dans tous les pays collectivistes. Plus vous créez de logements sociaux, plus vous créez de postes fonctionnaires,
de la paupérisation,
plus vous avez besoin de prélever de l'argent sur l'économie. Plus vous prélevez de l'argent sur l'économie, moins les gens sont payés, moins l'économie est dynamique, plus vous avez besoin de logements sociaux. Et donc, plus vous en construisez et plus vous avez besoin de fonctionnaires, et donc plus vous en recrutez, et c'est un cercle vicieux dans lequel la France est malheureusement durablement enfermée, parce que même des gens comme ce jeune Amiel qui est multidiplômé, ancien conseiller d'Emmanuel Macron, jeune parisien, etc., même dans la tête de ces gens-là germe ce genre d'idées en France. Donc forcément, vous ne pouvez pas avancer.
C'est le schéma de la mine, hein. Les sociétés houillères, en 1850, ils ne payaient pas leurs ouvriers, ou très peu.
Mais ils les logeaient.
Par contre, ils les logeaient, ils leur donnaient du charbon, à peine ils les nourrissaient, mais ils les soignaient, ils amenaient l'éducation à leurs enfants, voilà. Ils étaient pris en charge de la naissance jusqu'au cercueil, les mineurs. Et je pense que ce système-là, t'as raison, Charles, c'est un cercle vicieux
qui fait que tu donnes de moins en moins, parce que on dit l'employeur, il faut qu'il, enfin là Amiel il nous a dit il faudrait que l'employeur assure le logement, mais en fait l'employeur il a qu'un truc à assurer, c'est un salaire décent, et puis après les salariés ils se débrouillent quoi.
Mais il y a deux choses, c'est que il faudrait que l'État fasse en sorte qu'on puisse construire plus facilement des logements en France, moins de normes, moins de d'attentes. Là en ce moment ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on impose des normes écologiques, ce qui fait que il y a des propriétaires qui pourront même plus vendre leur logement parce que ça sera tellement compliqué, il faut faire des travaux considérables, donc au bout d'un moment t'as pas les moyens, donc tu le fais pas, donc on impose de plus en plus de normes, de règles, de contraintes, donc le logement est bloqué en France, on réduit les aides, on réduit les systèmes Pinel, etc. Mais je pense que de toute façon c'est l'un des grands échecs de Emmanuel Macron, le logement. Il y a une crise considérable, et puis là maintenant comme c'est une pénurie, on gère la pénurie, on se dit bah non, finalement maintenant c'est les fonctionnaires qui sont prioritaires. Jordan Bardella nous dit c'est les Français, oui. Un autre nous dira c'est les petits, un troisième va nous dire c'est ceux
les
qui
sont,
c'est les roux ou les chauves, enfin c'est on gère la pénurie.
Oui, mais enfin
parce qu'on règle pas le problème de fond.
Qu'est le salaire et la construction.
Qu'est le salaire et la construction, c'est-à-dire que les moyens que les gens puissent se loger avec leur salaire décemment et qu'il y ait suffisamment de logements pour que les loyers ne flambent pas.
Ce qui est fascinant avec la Macronie, c'est que le salarié mal payé du privé.
Oui.
Est vraiment en permanence la 40e roue du carrosse. Mmh. C'est-à-dire que l'ultra riche, alors lui, oh là là, on va lui mettre une flat tax, on va baisser ses impôts sur les successions, sur ses revenus des dividendes, on va surtout le consolider le plus possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille pour lui. Quand on est un homme politique aujourd'hui, et le policier, le fonctionnaire, etc. Comme en fait on vit planqué derrière un cordon de CRS depuis 2017, eh ben il s'agit de l'augmenter, le flatter, le protéger, etc. Donc c'est les 4 jours de travail par semaine dont on nous soutient en dépit du bon sens qu'on fera quand même les 35 heures, alors qu'en fait ça ne va faire que
travailler en 4 jours,
abîmer encore plus l'inefficacité de l'administration. C'est quand même ça qui va se passer en pratique. Mais alors, par contre, le petit salarié normal qui travaille normalement dans une boîte, le petit artisan, etc., qui galère, alors lui, rien. Lui, c'est juste des taux d'imposition, de prélèvement absolument maximum et rien d'autre. Ça, je suis désolé, mais ça devient suffocant.
On se rend pas compte à quel point ça influence le choix de carrière des gens. Je crois qu'on se rend pas compte que le fait de mettre en face d'un salaire des avantages qui... quelque part dépasse un petit peu le salaire, les gens ils choisissent en disant si je suis fonctionnaire j'aurai un logement, bon j'aurai 1000 euros de salaire mais au moins j'aurai un logement et puis j'aurai des bons alimentaires, des bons de rationnement, etc. Je vais prendre ça. C'est le choix de carrière qu'ont fait beaucoup d'agents, par exemple SNCF, de cheminots, qui avaient un tout petit salaire et qui ont regardé en face les avantages, à savoir la retraite à 50 ans, etc., la prise en charge d'un logement, et qui se retrouvent un petit peu maintenant arnaqués parce que avec les années on fait baisser les avantages et ils se disent mais merde j'ai pas assez de salaire. Mais c'est vraiment un cercle vicieux. Faut vraiment remettre au cœur de la rémunération le salaire et pas les avantages qui vont avec. Alors, comme si on était des communistes.
Faut-il réserver les logements sociaux aux fonctionnaires? C'est la question qu'on vous posait sur notre compte X, le compte des GG sur les réseaux sociaux. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On regarde le résultat, eh ben vous dites oui quand même. Eh oui, c'est les Français qui ont participé à ce vote disent oui à 58%. 58% non à 42%. Donc finalement la proposition du député Amiel est plutôt plébiscitée. Dans un instant, on est à 100 jours pile poil des Jeux Olympiques Paris 2024. David Douillet nous rejoint. Il était face au président de la République lundi au Grand Palais sur RMC, RMC Story. On va voir s'il a été convaincu par ce que voulait rassurer Emmanuel Macron en termes de sécurité, d'organisation. Et puis, est-ce qu'enfin on peut être enthousiaste pour ces JO alors qu'on a l'impression que tous les jours on ronchonne, on critique, on n'est pas content? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
C'est 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Joël Dagosséry, la coach de vie Didier Giraud, l'éleveur de bovins Charles Consigny, l'avocat. On est à J-100 des JO Paris 2024. Nous accueillons David Douillet.
RMC.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-100.
La Bah, il fallait bien effectivement un double champion olympique pour fêter cet événement. Salut David.
Bonjour.
Rappelons-le, 96 à Atlanta et à Sydney en 2000.
Eh oui.
C'est loin et à la fois encore présent.
Ouais, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que c'est 24 ans, 30 ans, c'est fou quoi, ça va à une vitesse folle. Puis en même temps, je m'en souviens comme si c'était hier quoi. C'est ça qui est beau, c'est la magie des jeux.
Alors, la magie des Jeux, on va voir si elle va prendre, parce que pour l'instant, on est plutôt dans une période de critique. Hein. Ça va pas, on ronchonne, on sera pas prêt, il y a les problèmes de sécurité, etc.
Alors, on est français, quoi.
C'est les Français.
Voilà.
Et ça c'est normal ou ça t'agace ?
Ça m'agace pas, parce que je suis français et je suis comme tout le monde, je suis un râleur, invétéré. Ça m'agace un peu parce que je trouve qu'on ne parle que des choses qui vont pas ou qui sont pas tout à fait au point ou qui risqueraient d'arriver, alors qu'en réalité, la contrepartie de l'autre côté de la balance que va apporter les Jeux pour notre pays, ne serait-ce qu'en termes de boost culturel pour le monde du sport, ça on n'en parle pas assez. Et les gens s'en rendent pas compte. Il faudrait des heures pour en parler.
Je rassure, par exemple, à côté de toi, il y a Charles Consigny.
Oui.
Charles, lui, les jeux, il en peut plus déjà.
Déjà
encore commencé.
Non, mais
il en peut plus.
Non, mais juste pour finir, excuse-moi, Charles. Le truc, c'est que vous avez des enfants ou pas?
Non.
Non. Bah, quand vous voulez en avoir ou pas?
Oui.
Bon, c'est bien. Lorsque vous aurez des enfants, vous vous rendrez compte. Je vous conseille.
J'obéis au président de la République. On doit réarmer le pays démographiquement.
Voilà. Bah, vous avez raison.
Je ne peux que déférer à cette.
Alors, faites des enfants. Mais quand vous aurez des enfants, vous apercevrez. Enfin, en tout cas, moi, je vous le dis, que pour un gamin, faire du sport, c'est une arme supplémentaire pour la vie. Voilà. Je vous le dis, et prenez en exemple ce que j'ai dit au président lundi, quand on est dans le village olympique, tous les athlètes, les 10 000 athlètes de confessions différentes, de couleurs, de races, de tout ce que vous voulez, dans toutes leurs différences, sont capables de faire un des plus beaux spectacles au monde. Pourquoi ? Parce que un jour, ils ont poussé la porte d'une association sportive et ils ont acquis une colonne vertébrale de valeurs identiques. Que vous soyez en Afrique, en Asie, en Europe, la colonne vertébrale, elle est là. Le respect, la considération de l'autre, l'écoute, la compréhension, le dépassement de soi, le travail, etc.
Donc les valeurs du sport.
Les valeurs du sport, mais qui font qu'on peut...
C'est pas un peu galvaudé, David, on va dire que tu es un peu bisounours, parce que les valeurs
pas du
sport, ça peut être la triche, ça peut être le dopage, c'est parfois aussi la concurrence sans limite.
Oui, mais ça, c'est des tricheurs, il y en a dans tous les domaines. Ouais. Hein, voilà. Moi, je vous parle des valeurs fondamentales. Je vous jure que, pour un enfant, ça peut changer totalement sa vie. Vraiment, et pas forcément en faisant du haut niveau.
Oui, mais Charles, ce qu'il voit, c'est aussi une ville qui sera très compliquée d'accès, la ville de Paris, des problèmes de sécurité, une cérémonie d'ouverture qui inquiète. Est-ce que toi, qui étais face au président pendant quand même quasiment une heure, lundi au Grand Palais, hein, c'était sur RMC, c'était l'événement, est-ce que le président de la République t'a rassuré sur toutes ces questions-là?
Il m'a rassuré et mon pays me rassure sur ces questions. Parce qu'on a déjà organisé des grands événements. On vient d'organiser la Coupe du Monde de rugby. Il s'est rien passé. On organise des championnats du monde tout le temps, en permanence. Il se passe pas grand chose, ou rien du tout. Donc, on est un pays on est quand même un pays où l'autorité, l'ordre, les organismes de sécurité, fonctionnent. Les organismes de récupération d'informations, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, fonctionnent bien. Ils sont rompus à l'exercice. Donc, on a toutes les garanties, surtout en France, pour que les choses se passent bien et soient le plus protégées possible.
T'es rassuré ?
Non, mais moi, je ne veux pas voir ces jeux par le petit bout de la lorgnette et chouiner parce que je n'aurais pas mon
QR code,
mon bus ou que sais-je, etc. C'est pas le sujet. Je vais fuir Paris évidemment pendant cette période. Je pense de toute façon que ça ne sont pas vraiment des jeux pour les Parisiens. C'est pas tant le sujet. Tu sais, je comprends bien le rayonnement, etc. Si on y arrive, en plus si on finit par y arriver, je serais heureux de me dire que la France est quand même encore capable à peu près d'organiser un événement de grande ampleur. Parce que là, c'est vrai qu'on est un peu inquiet. Plus ça approche, et plus on est inquiet.
C'est normal d'être inquiet.
Mais c'est juste que voilà, moi, à titre personnel, par ailleurs, je ne suis pas passionné par le truc, mais si ça va au bout et si ça marche bien, évidemment que je serais content. Il faut voir exact. Est-ce que vraiment ça rapporte plus que ça coûte? Ça, oui. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr.
Si, mais bien sûr. Déjà. déjà dans le.
Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément chiffrable. Bah, enfin, de toute façon, le rayonnement, etc.
Si, c'est chiffrable.
Bon. Les coûts, oui, mais les bénéfices.
Dans ce qui est déconstruit là aujourd'hui, il y a un retour sur toutes les entreprises qui ont construit, qui est significatif. Le retour des gens qui vont venir et consommer Paris.
C'est le privé qui finance, faut le rappeler.
Comment?
Il y a une bonne partie financée par le privé.
Oui, mais enfin, là, on parle du retour global. Évidemment que le financement principal des jeux, c'est privé. C'est pas l'État. Et tant mieux pour nous. Les aménagements qui sont faits et qui dépassent les jeux, ça sera pour toute la vie. Hein. Mmh. On peut parler de la qualité de l'eau de la Seine. Tout ce qui a été fait, c'est promis depuis des décennies et des décennies.
Oui, après, est-ce qu'il y avait une urgence à se baigner à Paris, dans la Seine?
Pas forcément, surtout à 8 degrés. Mais voilà. Voilà. Mais en tout cas, ça va arriver. Donc c'est plutôt bien. Oui. Voilà. Bah, ça apporte des choses. Ça fait partie de. Oui, mais c'est de l'héritage.
Oui.
Je veux dire, c'est important quand même. On est dans une période où il faut assainir nos comportements, assainir notre impact carbone, et on le fait aussi avec l'eau et c'est important.
Joël, Didier.
Bah, écoute, moi je suis un enfant de la balle. Moi, les JO depuis que je suis gamin, j'ai toujours été passionné de sport et du coup je trouve que c'est un moment important dans ma vie que de les voir chez moi. Après, j'ai quand même un peu le sentiment aussi que ces jeux ils sont très paris. Et que les retombées économiques. J'écoutais ce matin là des études sur ce qui s'est passé à Londres en termes de restauration rapide et ces choses-là. Enfin, c'est d'abord la capitale qui va en bénéficier, quoi. Il y aura bien quelques épreuves à Châteauroux et à Marseille, mais en fait, je crois pas que le petit restaurateur chez moi dans le fond de la Saône-et-Loire il aura une retombée. Après, ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'il y a un vrai effort de fait sur les infrastructures, quoi. Enfin. Moi, ce que je trouve terrible, c'est de voir la piste de bobsleigh, le sautoir de 68 qui est en train de tomber en ruine, quoi. Le sautoir de 68,
ce qu'on appelle les éléphants blancs, oui.
De tomber en ruine. Et je pense que là, il y a un vrai effort, c'est qu'il y a une seule construction, c'est la piscine, dans un lieu où il n'y en avait pas et qui servira derrière, quoi.
Exactement.
Alors que le reste, c'est tout
plutôt de l'aménagement de la
ruine. Absolument, tout est déjà là.
Je crois que dans l'investissement, il y a des vrais choix d'économies qui sont faits, et ça, on peut le saluer.
La plupart des choses étaient construites déjà.
D'optimisation et d'économie. Vraiment, c'est les jeux qu'organise Tony Estanguet, notamment sur ces sujets, ils sont très vertueux, sincèrement. Et on va être les premiers à les faire de cette manière-là.
Des infrastructures dans les orties, c'est quand même un peu triste, quoi.
Oui, bien sûr.
Après, moi, j'ai écouté le président attentivement. Je suis quand même un peu inquiet sur le tableau des médailles. Alors, j'ai toujours été.
Il faut rappeler qu'il a dit qu'il fallait qu'on soit dans le
top 5. Dans les 5 premiers.
Le top 5.
Alors, je t'explique qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans les 5 premiers. À Tokyo, on était 8e, je crois, avec 10 médailles d'or. Le 5e, il en avait 20.
Donc,
ça veut dire qu'il faut qu'on double nos médailles d'or. Et je trouve que la France, on est des nains, on est des puceaux, on est des nuls là-dessus. Là-bas.
Ah non.
Parce que les Anglais qui sont arrivés à se poser. Non, mais en termes de stratégie, les Anglais qui sont arrivés à leur jeu de se positionner sur le podium, eux, ils ont fait quoi? Ils ont gardé tous les sports qu'ils étaient sûrs de faire une médaille, ils ont viré tout ce qu'ils pouvaient.
Exactement.
Et ça faisait 12 ans.
Ouais.
Ça faisait 12 ans qu'ils préparaient des gamins à devenir champions olympiques.
Moi, je préfère.
Et je pense que nous, on n'est pas très bons.
On les a pas préparés.
Non, c'est pas vrai. On les a bien préparés. Sauf que nous, on a une autre politique. Nous, on ventile notre argent sur l'ensemble des sports. Et pas forcément olympiques. Moi, je préfère, je préfère que tous nos gamins puissent avoir un panel de choix d'activités sportives plus large et pas avoir, et avoir moins de médailles olympiques.
Ah bon?
Parce que pour moi, exactement. Parce que pour moi, le sport, c'est d'abord le sport de masse.
D'accord.
C'est d'abord JO, des bénévoles. C'est d'abord
les
JO, des associations
c'est pas
sportives.
Quatrième, l'objectif.
Non, mais les JO, c'est la pointe. C'est la toute petite pointe. Avec très peu d'athlètes de haut niveau. Très peu de sportifs qui sont issus du sport de masse.
Derrière, ça donne envie aussi à des, quand les jeunes t'ont vu faire ce que tu as fait comme exploit.
Ils ont été inscrits au judo.
Ils se sont inscrits au judo. Quand il y a des Floa, gagne Roland Garros.
Bien sûr. Mais les jeunes rêvent devant Usain Bolt. Aussi.
Voilà.
Les jeunes rêvent devant la Dream Team, etc. Enfin, le basket, etc. Donc, c'est pas le souci, le rêve pour un gamin.
Je pense que si Antoine Dupont est champion olympique, ça va changer quelque chose.
Moi, je préfère une politique sportive où on est là derrière toutes les fédérations sportives plutôt que de focaliser juste pour avoir
un objectif. Est-ce qu'on peut finir vraiment dans les 5 premières nations?
Oui, on peut finir dans les 5 premiers. Pourquoi? Parce que quand on est à la maison. Quand on est à la maison, moi j'ai eu la chance de faire un championnat du monde à la maison. Non, c'est pas ça. On a vraiment.
Sport comme la boxe.
Ça vous prend par les tripes. Quand on est devant les copains.
Il y a vraiment un effet.
Quand on est devant la famille. Ah oui, C'est ouais. indéniable. Moi, je pense que ça a un effet d'au moins 20 à 30% de gain de productivité, soi. De résultats quand on est chez soi. Vraiment.
Ben, regarde dans les sports collectifs, enfin, ça suffit pas. Les victoires à l'extérieur et les victoires à domicile.
Mais si, ça suffira. Mais soyez optimiste alors.
Est-ce que vous croyez alors à la cérémonie d'ouverture sur la scène?
Oui.
Ça va se faire, vous pensez?
Ah bah oui, j'espère que ça va se faire. On va là encore dénoter par rapport à tout ce qui s'est fait. Bien sûr que ça va se faire. Et il faut que ça se fasse de cette manière-là. On ne doit pas s'arrêter de vivre. On ne doit pas s'arrêter de rêver. Sous la menace, c'est pas possible. Il faut qu'on avance. Il faut que l'humanité soit bien plus forte qu'une minorité qui veut foutre la trouille à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais je suis d'accord. Bon, Est-ce que vous n'êtes pas choqué par le fait qu'on rétablisse le temps de ces jeux le système du QR code, puisque donc certains, j'ai pas d'ailleurs très bien compris qui, vont devoir présenter un QR code.
Les habitants des zones qui sont vraiment des zones olympiques, par exemple.
C'est normal, on n'est pas fou. Ben c'est normal.
Si tu habites près de la place de la Concorde,
il y a une zone à sécuriser. Il y a des appartements qui donnent sur la Seine. Les bateaux vont défiler devant. Il faut bien évidemment checker tous les gens qui habitent ces appartements. Tous ceux qui seront présents au moment.
Moi, je suis pas d'accord.
Mais c'est obligatoire. On n'a pas le choix, de toute façon. Sinon, on ne peut pas le faire. Filtrer. On n'a pas le choix.
Sinon, tu mets un sniper dans ton appart, après,
Mais comment on aurait fait avant l'existence des QR codes, par exemple?
On t'aurait montré ta pièce d'identité.
On aurait scanné votre pièce d'identité.
On t'aurait demandé ta pièce d'identité avec ton adresse pour trouver un justificatif de domicile. C'est ça.
Un QR code, en fait, je l'utilise pour prendre le train.
Oui, mais moi,
Oui,
je me méfie. Je trouve qu'on devient comme les Chinois un peu sur la sécurité. On sécurise à la chinoise. Oui, mais on s'inspire de modèles totalitaires.
Le
long de la Seine et autour des sites, puisqu'il y a des sites qui sont au cœur de
mais
Paris.
Mais personne n'habite le long de la Seine de toute façon.
Mais si,
il y a des touristes anglais qui habitent le long de la Seine.
Des appartements qui donnent sur la Seine.
Joël, question.
Non, moi je suis plutôt enthousiaste sur les Jeux. Je suis contente qu'ils soient là. D'ailleurs, j'adore quand notre pays remporte des Jeux ou une compétition, etc. Parce que moi, la question que je me pose, vous avez l'air super enthousiaste sur le fait que la politique massive du sport, c'est génial. Mais néanmoins, j'ai trouvé la réponse très faible du président de la République sur le fait de mettre le sport au centre de l'école et que la France va être une nation sportive. Et je suis pas sûre qu'après les Jeux, on sera beaucoup plus sportif qu'avant. Et c'est ça qui me désole le plus.
Vous avez raison,
j'ai une fille qui fait du basket. Elle fait du sport depuis qu'elle a l'âge de 4 ans. Elle a commencé par le hockey sur glace, natation, aujourd'hui du handball. Aujourd'hui, elle fait du basket, donc elle adore ça.
Mais elle change souvent quand même.
Là, elle a trouvé son sport, je pense, avec le basket. Et plus les années passent, et plus je vous assure que c'est très dur pour elle, en fait, de concilier école et sport.
Ah bah je sais.
Il n'y a rien qui est fait dans la façon des programmes scolaires, dans la façon de mettre d'adapter. D'adapter le sport
Bien
pour
sûr.
Que, justement, un enfant qui ait une appétence un peu particulière pour le sport puisse se développer sans forcément tuer ses études, etc. Donc, je comprends que vous défendiez la politique massive. Moi, je préférerais qu'on ait une politique stratégique, comme l'a dit Didier, et qu'on mette les moyens sur des
c'est
sports
la seule
en,
qui
partie,
marche, celle-là,
en particulier, mais au aussi niveau. Que le programme, en fait, que la société, en tout cas de l'éducation, s'adapte au sport un peu plus.
Là, on y est. Le problème, c'est que en France, on a un château fort, c'est l'éducation nationale, qui ne laisse rentrer quasiment personne. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Et le président, je trouve, par son souhait de faire au moins une demi-heure de sport chaque jour à l'école, a commencé à mettre le pied dans la porte.
Mais il faut aller plus loin.
Mais il faut aller plus loin.
Les infrastructures.
Et c'est ce que je lui ai dit. Les infrastructures, on est en train de les augmenter.
Ouais.
Et ce qu'il faut faire, c'est de prendre ce lien, de tisser ce lien et de le rendre fort et indissociable avec les associations sportives, avec le monde du sport à l'extérieur, et de le faire rentrer dans l'école.
Les associations, ils sont en dehors de l'école aujourd'hui.
Bien sûr, mais justement.
Et changer les mentalités.
Et changer les mentalités.
Pas que le sport, ça soit la matière
exactement. C'est la perception qu'on a du sport et la façon dont on le communique aux élèves, par exemple, qui seraient bons en sport, comme si, en fait, oui, mais c'est que le sport, s'il a 17.
Vous savez, c'est en train de changer.
Ça, c'est très grave.
C'est en train de changer. Malgré les volontés de qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enseignants, qui font un boulot remarquable, les profs d'université, etc., font eux-mêmes du sport. Beaucoup plus de sport qu'avant, à titre personnel. Les mentalités commencent à changer. Et les portes commencent à s'ouvrir. Moi, je suis assez optimiste sur ce sujet.
Merci David Douillet, face au GG, pour fêter le coup les 100 jours. On est à 100 jours des Jeux. Et je précise que les Grandes Gueules seront en direct de Marseille le 8 mai.
pour l'arrivée en France de la Flamme qui sera à bord du Bel Aim. Hein. Ça y est, la Flamme va partir de Grèce, va rejoindre la France, va accoster à Marseille et les Grandes Gueules seront là sur le Vieux-Port pour accueillir la Flamme olympique. Ça sera un autre rendez-vous très important dans cette course olympique qui vient de commencer. Merci David.
Merci à vous.
Dans un instant, les Grandes Gueules continuent de débattre de l'actualité et notamment des fêtes foraines qui sont devenues infréquentables. La Foire du Trône, visiblement, c'est de plus en plus chaud. Tiens, Joël, je sais que tu as souvent été à la Foire du Trône avec ta fille. Tu vas nous raconter si tu peux encore y aller. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à midi,
les Grandes Gueules.